Donc je vais faire un exposé qui sera sur des choses, sur ce qu'on appelle la programmation parallèle, et qui sont peut-être un petit peu moins avancées, mais qui sont, je pense, très importantes. Donc je vais vous parler en fait des grosses machines et du calcul parallèle, enfin sur les grosses machines et les petites machines. Donc là, je commence avec ce premier slide qui va vous donner un aperçu de là où on en est quand on parle de supercalculateurs. Vous avez donc, il y a un classement, en fait, des gens qui le veulent bien, ils mettent leur supercalculateur, ils font exécuter un programme de test, ça lui donne sa puissance et ça permet de classer les machines, ça s'appelle le top 500. C'est donc la machine qui est numéro 1 au top 500, c'est une machine chinoise, d'accord. Vous faites top500.org, vous allez voir, elles y sont toutes. C'est la photo qu'il y a dessous, c'est une machine qui fait 93 pétaflops, qui a 10 millions de cœurs. Donc, cœurs, c'est des entités de calcul, et ils consomment 15 mégawatts d'électricité. Donc, c'est une quantité énorme. Donc, c'est des machines qui, il faut un bâtiment entier pour loger ce genre de machines. C'est des choses qui sont absolument gigantesques. La partie alimentation, climatisation sont aussi gigantesques. C'est vraiment des énormes machines. Mais c'est pour vous donner une idée qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle une machine parallèle peut avoir jusqu'à 10 millions de cœurs, c'est-à-dire 10 millions de processeurs. On affinera un petit peu ce qu'est la notion de cœur, mais 10 millions d'unités de calcul. Il y a une course qui est engagée. Alors, ça ne sera sûrement pas 2020, ce sera plutôt 2021, voire 2022, vers ce qu'on appelle la machine exascale. Donc, on voudrait arriver à un exaflop, c'est-à-dire 1000 pétaflops. Okay, donc les gens, les grandes nations qui sont dans cette course, il y a essentiellement le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Europe est un petit peu derrière. Mais voilà les grandes structures. C'est des machines qui sont à l'échelle de l'Europe. Hein. C'est des coûts d'un demi-milliard d'euros construire une machine comme ça. Hein. Donc c'est pas des machines qui sont portées par un seul pays, au niveau de l'Europe en tout cas. Donc cette machine, c'est 1000 pétaflops ou un exaflop. On imagine que cette machine en aura de l'ordre du milliard de cœurs, d'accord, et qu'elle consommera de l'ordre de 20 mégawatts. En fait, il y a une grosse contrainte énergétique. Ces machines ont tellement grossi qu'on commence à se dire que la consommation énergétique devient raisonnable. Donc, il faut que ça rentre dans 20 mégawatts. C'est pas parce qu'on pourrait dépenser beaucoup plus. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a un gros effort qui est fait pour contenir la consommation énergétique de ce genre de machines. Donc ça, c'est des très, très, très grosses machines. Ces machines-là, quel est le principe de ces machines-là? C'est de dire, je fais un calcul sur une machine, je mets une vitesse donnée, un temps T, et je veux aller plus vite. Comment je fais? Eh bien, j'en mets deux, et si j'en mets deux, j'espère que je vais faire T sur deux, si je suis capable de distribuer le travail. Si j'en mets trois, si j'en mets quatre fois plus vite. Okay? Si j'en mets 1024, ben 1024 fois plus vite. Et on fait ça jusqu'à des échelles extrêmement importantes. Donc la programmation parallèle, traditionnellement, et ces machines parallèles, alors il faut un je vais y revenir, il faut les programmer de manière particulière, puisque dans différentes entités, il faut coordonner leur travail. Traditionnellement, ça vient du domaine de la simulation numérique. Donc c'est la simulation numérique, vous voulez simuler un avion et l'écoulement de fluide autour de la structure de l'avion, c'est des choses qui sont extrêmement gourmandes en calcul. Donc ça, c'est les domaines traditionnels. L'énergie, alors vous avez peut-être entendu parler que les essais nucléaires en France ont été arrêtés par Chirac. Pour maintenir l'arsenal, je parle de ça parce que c'est le plus premier consommateur de calcul. Hein. Pour maintenir l'arsenal nucléaire en état de fonctionnement, ils ont décidé de passer sur un modèle numérique, c'est-à-dire du calcul parallèle pour simuler ça, éviter d'avoir à faire des expérimentations en réel. Et ça, c'est le plus gros calculateur qui est en France, qui est au sud de Paris. Okay. Donc c'est les domaines. Mais les choses ont changé depuis une vingtaine d'années. On voit des supercalculateurs, des choses qui s'apparentent, qui dérivent des supercalculateurs dans d'autres domaines. Donc on le voit, vous avez entendu parler du cloud computing. Dans le cloud, c'est aussi des très grosses machines qui ont une architecture un petit peu différente, qui font des choses un petit peu différentes, mais c'est toujours le même principe. J'en mets deux pour aller deux fois plus vite, quatre pour aller quatre fois plus vite, ou stocker quatre fois plus de choses, parce que j'ai aussi des disques, j'ai aussi plus de mémoire. On retrouve ça dans les domaines, alors c'est dans le cloud, mais ce qu'on appelle le big data analytics, c'était l'analyse de données massives de données, donc il y a des environnements de programmation particuliers, c'est le MapReduce par exemple. Là aussi, pour avoir, quand vous avez votre navigateur web avec un panneau publicitaire et qui vous met une pub qui correspond aux recherches que vous avez faites dans les semaines qui passent, et bien là derrière, quand vous faites ça, vous allez sur cette page web, en fait ce panneau publicitaire il est vierge, et en temps réel il y a une quantité gigantesque de calculs qui ont lieu pour essayer de vous identifier, faire des enchères pour savoir qui va afficher sur ce panneau pub et qu'est-ce qui va afficher en fonction de ce que vous savez. Et tout ça, ça a lieu avec des calculs et de traitement de données qui ont lieu sur ces très grosses machines-là. Les choses qui sont ultra à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement tous entendu parler. Même chose, l'intelligence artificielle est extrêmement gourmande, au moins dans la phase d'apprentissage. en calcul, et vous avez Google qui, par exemple, développe des environnements de programmation spécifiques pour l'intelligence artificielle, faire ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, le deep learning, donc TensorFlow, et qui vont jusqu'à développer des processeurs ou des coprocesseurs spécifiques, on appelle les TPU pour Tensor Processing Unit. Donc c'est des choses qui sont dédiées. De manière plus traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'IA ? On utilise des GPU, c'est des Graphic Processing Units, qui sont au départ des cartes graphiques, mais qui ont évolué, maintenant ça, il y a plus d'une dizaine d'années, de faire du calcul graphique à faire du calcul généraliste, et aujourd'hui elles font du calcul pour faire du réseau de neurones profonds. Donc, une grosse machine qui fait de l'IA, c'est une machine qui est bourrée de GPU, de cartes graphiques, mais qui ne font absolument pas d'images, qui n'ont même pas de sortie vidéo, qui sont là pour faire très très vite tous les calculs nécessaires à faire fonctionner ces réseaux de neurones de très grande taille. Les processeurs, eux aussi, ont évalué avec un parallélisme qui est, je dirais pas à cette échelle-là, mais on avait pendant longtemps eu un processeur, c'était une unité de calcul, c'est-à-dire qu'il exécutait un fil d'exécution, une séquence un programme qu'on appelle séquentiel. Mais maintenant, depuis pas mal d'années, les processeurs sont multicœurs, c'est-à-dire qu'en fait, dans un processeur, vous en avez deux, si vous voulez. Et on appelle ça un cœur. Donc, dans la même puce physique, vous avez deux cœurs, quatre cœurs, huit cœurs, etc. Dans les processeurs traditionnels, on trouve ça dans les processeurs haut de gamme, dans les accélérateurs, je vous parlais des cartes graphiques, elles sont multicœurs aussi. Il y a des processeurs très haut de gamme comme le Xeon Phi qui sont aussi des processeurs multicœurs. Les TPU sont des processeurs multicœurs. Et puis on trouve ça même dans les processeurs à faible consommation d'énergie qui sont faits pour les téléphones portables. Donc là-dedans, il y a un processeur qui a 4 cœurs typiquement, ou peut-être même 8, je ne sais pas exactement. Donc on a du parallélisme. Donc ces 4 cœurs, ce sont 4 entités qui travaillent indépendamment. Et quand on va vouloir les programmer, donc soit on leur fait faire des choses qui sont vraiment, qui n'ont rien à voir, il y en a un qui s'occupe de mon mailer et l'autre qui s'occupe, j'en sais rien, de mon navigateur web, mais si on veut faire une application ou un code qui soit capable d'exploiter en fait la puissance disponible en fait via ce parallélisme, il va falloir dans mon langage exprimer du parallélisme. Okay. Pendant longtemps, on s'est dit, on va le faire automatiquement. C'est-à-dire, on va prendre un programme séquentiel, on va le passer dans une moulinette et pof, il va extraire du parallélisme. Et ça, ça n'a jamais marché. C'est très difficile à faire. Alors, est-ce que ça marchera un jour ? C'est toujours difficile, mais il y a des difficultés inhérentes. C'est qu'un bon algorithme parallèle, c'est souvent, dans beaucoup de cas, pas la version séquentielle bidouillée. Il faut repenser de manière extrêmement différente l'algorithme. Et ça, dans une phase de compilation, on ne peut pas le faire. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc, la parallélisation automatique, en tout cas, aujourd'hui, on n'y compte pas dessus. Donc, il va falloir, et ça, c'est un travail qui est fait, il faut faire évoluer le langage de programmation pour qu'il soit capable de supporter le parallélisme, parce que le parallélisme, c'est plus réservé à ces énormes supercalculateurs dont je vous parlais, il y en a juste de partout. Okay. Et si vous voulez exploiter les 4 cœurs qui aboutissent en téléphone portable, qu'il faut qu'ils servent à quelque chose, il va falloir faire de la programmation parallèle pour que vos applications aillent plus vite. Voilà. Quelques concepts de base sur la programmation parallèle. On essaie de voir une notion de performance. Comment on mesure la performance ? Vous faites T1, vous dites, vous mesurez le temps d'exécution de vos programmes séquentiels. C'est-à-dire, vous écrivez un programme pour un processeur. Ça vous donne un temps T1. Ensuite, vous avez un programme parallèle, vous l'exécutez sur P processeur. Quand je dis P processeur, ça peut être P cœur. C'est pareil. On s'abstrait un petit peu, on est dans un modèle. Et ce qu'on va regarder, c'est l'accélération. Okay, c'est un principe tout bête, c'est de dire, on divise le temps séquentiel T1 divisé par TP, et si on est égal à P, on ne peut pas faire mieux. D'accord ? Vous avez une tâche, vous la faites réaliser par deux personnes, si vous allez deux fois plus vite, vous êtes très content. En fait, la réalité est souvent inférieure à ça, vous faites peindre votre maison, si les peintres, il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils se coordonnent, donc ils ne vont pas aller tout à fait deux fois plus vite. Okay. Il va y avoir ce temps de discussion, etc., qui va faire que ça va ralentir un peu l'accélération. Donc vous allez être en dessous. Mais l'objectif, c'est d'atteindre P, d'être le plus proche possible de P. Okay. Il y a ce qu'on appelle la loi d'Adam, qui dit, on peut regarder, on va se dire, on prend un programme, je le parallélise, et probablement, il y aura toujours des parties que je n'arriverai pas à paralléliser. Donc mon programme est là. Donc il y a des parties que j'arrive bien à paralléliser, d'autres parties qui vont rester séquentielles. Donc je vais vous dire, mon temps d'exécution, il y a la partie, il y a une fraction que je suis capable de paralyser, c'est la fraction 1 moins alpha, d'accord ? Donc L, son temps d'exécution, je divise par P, je me mets dans la situation la plus idéale, c'est-à-dire c'est parfait, je n'ai pas de coût de synchronisation, et puis le reste, ça reste séquentiel. Si vous prenez la limite de ça en disant je prends autant de processeurs que vous voulez, vous avez cette fraction-là qui reste là, ok ? Et donc ça tue le speed-up, c'est-à-dire que s'il reste des parties séquentielles, quand vous augmentez le nombre de processeurs, à la fin, ça votre speed-up, il plafonne. D'accord ? Donc on va essayer d'avoir des algorithmes dans lesquels on limite au maximum ces phases où il y a peu de parallélisme. Ça peut être extrêmement difficile. Les modèles de programmation. Donc sur les très très gros machines, on utilise, donc qui sont dites à mémoire distribuée, c'est-à-dire les machines sont complètement autonomes les unes par rapport aux autres, elles sont reliées par un réseau, mais elles gèrent leur propre mémoire, indépendamment les unes des autres. Une machine donnée A ne peut pas aller lire dans la mémoire d'une machine donnée B sans l'autorisation de B. Okay, donc chacun gère. Donc ce qu'on appelle le modèle à mémoire distribuée. Donc on va introduire la notion de passage de message, c'est-à-dire qu'on va fonctionner avec des bibliothèques qui vont permettre de dire, ben voilà, on va numéroter tous les processeurs, ça va simplifier les choses, donc il y a le processeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on va dire dans mon programme, je vais réécrire un problème, si je suis le processeur 0 par exemple, je fais quelque chose, et si je suis un autre processeur, je peux faire autre chose. On va écrire qu'un seul programme et on va différencier le rôle des processeurs en utilisant des if, des conditionnels. Et ensuite, pour pouvoir synchroniser et changer des informations, on va utiliser des messages. Donc on va faire des envois et des réceptions. Donc on va dire, ben, moi je suis processeur 0, j'ai un message à faire envoyer à processeur 1, je vais faire un send au processeur 1, puis le processeur 1, de son côté, lui va faire une réception. Donc vous allez écrire vos programmes comme ça. Les programmes qui font, que je vous parlais de la simulation de fluide autour des carlingues d'avion chez Airbus, ils sont programmés avec ce genre de choses, et ça permet de les déployer sur des machines avec des milliers de cœurs ou des milliers de processeurs, enfin ces très grosses machines dont je vous ai parlé. D'accord ? Il y a un standard, quelque chose que tout le monde utilise, ça s'appelle MPI, Message Passing Interface. Ce n'est pas un langage, c'est une librairie. C'est-à-dire que ça peut s'utiliser dans n'importe quel langage. Ça rajoute simplement ces notions d'instruction, d'émission et de réception de programme. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à prendre en main, mais qui est très explicite et qui peut être assez compliqué parce qu'il faut vraiment gérer à main tous les efforts de coordination entre les processeurs. D'accord ? Il y a un autre modèle de machine, ce qu'on appelle le modèle de programmation à mémoire partagée. Donc c'est plus ce qui va nous concerner dans ce qu'on a sur cet ordinateur-là, ce qu'on a dans le téléphone, c'est-à-dire qu'on est en multicœur où on a plusieurs cœurs de calcul mais qui accèdent à la même mémoire. D'accord ? Donc dans ce cas-là, on va essayer de programmer les choses différemment. Donc la façon traditionnelle, je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez, mais c'est de travailler avec des threads. Donc on crée plusieurs threads, et ces threads ont la capacité d'échanger des informations. Ils travaillent avec la même donnée, c'est-à-dire qu'une variable A qui est déclarée dans le programme, elle est accessible aux deux threads. Et deux threads, c'est en fait deux entités qui exécutent des fils d'instructions indépendamment l'une de l'autre. Donc après, il y a des instructions pour se synchroniser, pour se mettre d'accord sur qui écrit, qui lit, etc. Ça, c'est extrêmement compliqué, et on fait beaucoup d'erreurs quand on programme dans ce modèle-là. D'accord ? Donc vous prenez n'importe quel langage de programmation, Java, il y a des threads. Okay, dedans. Donc vous pouvez utiliser des threads pour faire ça, mais ça ne passe pas à l'échelle. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de cœurs, on n'arrive pas à faire de la programmation efficace avec ça. Donc dans certains cas, c'est une approche intéressante, mais on essaie de chercher d'autres approches. Je vais en parler un petit peu moins, mais il y a aussi des modèles qui ont émergé de programmation parallèle à travers ce qu'on a, les cartes graphiques. Donc je vous ai dit, les cartes graphiques, au début, elles faisaient des images. On branchait dessus un fil et puis voilà une sortie vidéo, puis ça crée des images. Avec un langage de programmation, le standard, c'est OpenGL. Okay ? Et puis, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire d'autres types de calculs sur ces cartes graphiques. Et donc, ils ont inventé un langage associé qui s'appelle CUDA. Ça, c'est celui de NVIDIA, qui est propriétaire. Okay, c'est le gros acteur du monde du GPU, NVIDIA. Il y a des gens qui ont dit, on va faire un standard qui est indépendant d'un constructeur de données, on l'appelle OpenCL, donc qui est le pendant de CUDA, mais qui est libre. D'accord ? Ça permet de programmer des cartes graphiques efficacement, mais ça permet aussi de programmer des processeurs multicœurs de manière plus générique. Mais c'est quand même très proche de l'architecture des GPU. Donc, ce n'est pas non plus la bonne approche, je dirais, pour pouvoir faire la programmation multicœur. Alors, je vais introduire cette notion maintenant. Donc, d'abord, on va regarder ce que c'est qu'une machine multicœur ou à quoi ça ressemble une machine d'aujourd'hui. Donc là, vous avez une carte mère. Et sur cette carte mère, on voit en fait les quatre sockets. C'est là où on va mettre les quatre processeurs qui sont eux-mêmes multicœurs. Et puis, vous avez en fait ces barrettes-là. C'est là où on met la mémoire. D'accord ? Donc, en fait, si on fait un schéma, vous allez avoir un processeur dans lequel il y a plusieurs cœurs, okay, qui partagent du cache et puis des bancs mémoire. Okay. Donc je vais parler de mémoire partagée. Vous voyez que en réel, la mémoire elle est distribuée. C'est-à-dire que vous avez des bancs mémoire distribués et que ce processeur-là ou ce cœur-là va avoir un temps d'accès à cette mémoire-là qui va être plus rapide que s'il essaye d'accéder à cette mémoire-là. Mais par contre, on va quand même cacher ça. C'est-à-dire qu'il y a tout le mécanisme au niveau du hardware, c'est-à-dire du matériel du processeur, qui va faire en sorte que ce processeur-là, il va pouvoir accéder n'importe où dans la mémoire. Et en fait, quand vous déclarez une structure de données à votre langage, vous ne savez pas trop où est-ce qu'elle est allouée. Hein, on vous cache cet effet-là. On va vous donner l'impression que vous avez travaillé en mémoire partagée, c'est-à-dire que tous les cœurs accéderaient à la même mémoire, un gros bloc mémoire, même si physiquement c'est distribué. Okay. Vous pouvez, y a des petits utilitaires qui permettent, là, vous faites hwls-off, c'est pour le format TXT, et vous avez en fait la configuration de votre portable. Là, c'est un portable, donc vous avez 4 cœurs avec 2 unités de... Vous avez aussi un aspect hyper-threading, les niveaux de cache qui sont par cœur, et puis des niveaux de cache qui éventuellement sont partagés. Et donc la question, c'est comment on programme ça. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle la programmation partage. Donc la programmation partage, c'est de dire, on va exprimer pas le parallélisme, mais un parallélisme potentiel. Donc on va dire, je vais dans mon programme exprimer là où il y a du parallélisme potentiel, et je vais laisser au système le choix d'extraire ou pas ce parallélisme. L'idée est toujours de se dire, bon, on n'arrive pas à faire la parallélisation automatique, mais essayer de fournir à l'utilisateur, au programmeur, un environnement de programmation où automatiquement on prend en charge autant, enfin, la majorité des problèmes, enfin la plus grande partie possible des problèmes, de manière efficace. Et la limite se fait sur la problème d'efficacité. C'est-à-dire, si on ne sait pas le faire de manière efficace, alors on va laisser le cerveau humain faire ce travail-là, parce qu'il va le faire mieux que toutes les méthodes sophistiquées qu'il peut éventuellement avoir dessous. Donc il faut trouver le bon équilibre, un environnement de programmation qui soit suffisamment facile à manipuler, mais qui permette d'avoir des bonnes performances. Et tout l'enjeu est situé à ce niveau-là. Donc là, on a cette notion de tâche. Donc il faut exprimer du parallélisme potentiel, on va laisser le système extraire le parallélisme. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on va définir ce qu'on appelle une notion de tâche. Donc dans notre programme, on va définir des tâches. Et les tâches, ça va être des choses qui peuvent s'exécuter de manière... Elles peuvent être récursives, c'est-à-dire une tâche peut créer d'autres tâches, d'accord ? Quand on crée deux tâches à un instant donné, on suppose qu'elles peuvent s'exécuter indépendamment l'une de l'autre. C'est du parallélisme potentiel. Mais on ne dit pas où est-ce qu'elles vont s'exécuter. Ça va se faire tout seul. On est dans un modèle de mémoire partagée, c'est-à-dire tout le monde a accès à la mémoire. Donc il faut faire quand même attention au moment de la synchronisation et du dialogue, c'est-à-dire aux écritures et aux lectures. Donc quand est-ce qu'il peut y avoir conflit? C'est quand deux entités écrivent au même endroit, parce qu'on ne sait pas qui va écrire en premier, où il y a une lecture et une écriture. À ce moment-là, il faut savoir si la lecture a lieu avant l'écriture ou après l'écriture. Si on ne contrôle pas ça, les résultats vont être potentiellement faux, on ne le contrôle pas. En tout cas, en fonction de l'exécution, ça peut changer. Donc il faut faire attention. S'il y a deux lectures, ben, ce n'est pas grave, on fait juste lire le même endroit. Donc on va avoir le même résultat, ça va bien marcher. Donc il y a des environnements de programmation qui utilisent ce mécanisme de programmation par tâche. Donc il y a Silk, Intel TBB, OpenMP, et puis des choses qui, je dirais, qui viennent plus du monde académique parce qu'elles sont plus exploratoires comme KAPI et StarPU. Mais vous pouvez prendre un langage comme Silk qui est intégré dans GCC et vous avez ce concept de tâche qui est complètement intégré dans le langage et vous allez pouvoir faire de la programmation par tâche. Je vous donne un exemple. Ça, c'est l'exemple super traditionnel autour de la programmation par tâche. Et je vous le présente avec Silk. C'est du pseudo-code. Hein. Ce n'est pas exactement le code pour rendre l'exposé un petit peu plus clair. Donc, c'est la suite de Fibonacci qui est calculée. Donc, vous écrivez la fonction. C'est une écriture récursive du code. Vous définissez deux variables x et y. Donc, une variable n qui est passée en paramètre. Vous dites si n est plus petit que 2, ben, je renvoie la valeur de n. Sinon, je calcule fib de n-1 et fib de n-2, puis je prends le résultat des deux appels de fonction et j'en fais la somme et ça me donne le résultat de fib de n. D'accord ? Donc c'est assez simple. Ça, c'est un problème, une écriture complètement séquentielle du programme où je fais les choses dans l'ordre. Je fais ce test-là, puis ensuite je calcule cette fonction-là, puis après je récupère l'appel à cette fonction-là et puis je fais la somme des deux. Donc maintenant, on va vouloir paralyser ça. On va le faire avec cette notion de tâche. Et donc, quand on va créer une tâche, on utilise le mot-clé spawn, qui veut dire créer, en gros. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, attendez, si je regarde ça de près, je vois que, finalement, je peux faire le calcul de Fibonacci de n-1 et le calcul de Fibonacci de n-2. Ça, c'est complètement indépendant. Les deux travaillent de manière complètement indépendante. Donc, je peux le faire en parallèle. Donc, j'ai du parallélisme potentiel. Donc, je vais dire ça dans le programme. Je vais dire, eh bien, ça peut être fait en parallèle avec ça. Donc, ça, c'est une tâche qui peut être exécutée plus tard ailleurs. Et ça, c'est une autre tâche qui peut être exécutée plus tard ailleurs. Il faut quand même que je fasse attention à quelque chose. C'est qu'à un moment donné, j'ai quand même besoin du résultat de ces deux tâches. Quand je fais la somme de x plus y. Donc, il va falloir quand même que j'ai une instruction supplémentaire qui me permet de dire, hop, il faut que tu attendes que les résultats soient effectivement disponibles pour pouvoir faire accéder à x et y. Et donc, je rajoute cette instruction 5 qui dit « attendre que l'exécution de toutes les tâches qui ont été créées dans ce bloc soit terminée. » Et à ce moment-là, je peux accéder à la valeur de x. je peux assimiler la valeur de Y et je sais que j'aurai les bons résultats et je peux faire mon appel. Et de cette façon-là, vous voyez, j'ai pu modifier mon programme séquentiel, d'accord, pour ce programme-là, et j'ai exprimé du parallélisme. Okay. Donc on regarde un peu un schéma possible de l'exécution de cet appel. Je fais FIB de 5. Et bien FIB de 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer deux tâches qui peuvent être exécutées en parallèle. Et puis c'est récursif. Donc FIB de 4 va créer deux tâches. FIB de 3 va créer deux tâches. FIB de 2 va créer deux tâches. Et vous avez un arbre de tâches qui est créé. Vous voyez qu'au niveau, si on regarde au niveau des feuilles, on a beaucoup de parallélisme. Au début, on en a peu, mais ça croît exponentiellement. Parce que vous doublez à chaque fois le parallélisme disponible. Donc là, vous avez... Vous pouvez alimenter beaucoup de processeurs. Alors, moins en haut, effectivement. Donc ça, vous avez vos programmes qui ont une efficacité limitée. C'est-à-dire que là, je ne vais pas beaucoup occuper mes processeurs. Là, je vais en avoir plus. Et les barres rouges représentent en fait les synchronisations qui disent, voilà, mon 5, FIB de 2, je ne pourrai faire la somme des calculs FIB de 2 que quand FIB de 1 et FIB de 0 seront disponibles, etc. Alors après, vous pouvez me dire, on peut faire des optimisations. C'est-à-dire là, on le calcule deux fois FIB de 1, FIB de 1. 1, 2, 3... 4, 5, ça c'est redondant. Bon, on peut essayer d'imaginer après comment améliorer le calcul, comment écrire le programme un petit peu différemment. Donc là, j'ai fait une chose, j'ai exprimé mon parallélisme potentiel. Maintenant, la question, on se passe du point de vue de la personne qui prend ce programme-là et puis qui doit l'exécuter efficacement. Donc comment je fais pour exploiter ce parallélisme sur ma machine, okay ? On va regarder en fait, on va regarder ce qu'on appelle un algorithme qui est vieux, qui n'est pas tout à fait celui qui existe, mais qui permet de bien comprendre les choses. Ça s'appelle le scheduling de liste, comment ça fonctionne. Donc l'idée, on se place dans un modèle, donc c'est 65 grammes, qui simplifie un peu la vue de ce qu'est un programme parallèle avec ses notions de tâches. On va voir le programme comme étant, vous avez des tâches de calcul à exécuter, c'est les boules, okay, c'est les sommets, et les arcs, ce sont des dépendances, c'est-à-dire... Quand j'ai une dépendance à cette tâche-là et cette tâche-là, ça veut dire que cette tâche-là ne peut pas s'exécuter tant que celle-là n'est pas terminée. D'accord ? Donc, je peux le programme de Fibonacci que je vous ai montré avant, je peux le représenter sous forme de ce graphe-là. D'accord ? Donc, vous avez une tâche initiale, puis après tout un tas de tâches, et à ce moment-là, on a terminé. Donc, le list scheduling, c'est une façon de ordonnancer ces tâches ou décider comment je vais répartir mes tâches sur ma machine. Okay ? Et il faut, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un algorithme qui soit rapide. Il ne faut pas prendre trop de temps pour faire cette décision-là. Donc, on a une notion de... Je commence avec une première tâche et j'ai une liste de tâches prêtes à exécuter. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la... c'est ça. Une tâche est prête à exécuter quand toutes ses dépendances ont été résolues. Ça ne veut pas dire qu'elle a été effectivement exécutée. Vous avez vos processeurs qui sont disponibles et qui vont aller piocher dans cette liste-là. Donc, quand un processeur n'a rien à faire, il a obligation d'aller voir dans cette liste s'il y a quelque chose à faire. S'il y a quelque chose à faire, il l'apprend. Okay ? Donc, je commence. Je suppose que j'ai... par exemple, deux processeurs. Le processeur jaune va commencer, il prend sa tâche. Là, le processeur bleu, il est obligatoirement en attente, parce qu'il n'y a rien d'autre dans la liste des tâches exécutées. Le processeur jaune, il va créer deux tâches, celle-là et celle-là, une fois qu'il a terminé. Et ces deux tâches vont être disponibles. À ce moment-là, jaune va en prendre une, et puis il y en a une disponible pour le bleu. Donc jaune et bleu vont travailler en parallèle. Et puis celui-là va en créer une autre qui va être exécutée par un bleu, etc., etc. Et de cette façon-là, je vais avoir automatiquement en fait, mon parallélisme potentiel qui s'est transformé en parallélisme réel par rapport à la disponibilité de mes processeurs. Et vous voyez que je n'ai pas eu à écrire dans mon programme combien j'avais de processeurs. C'est-à-dire le même programme, je vais pouvoir l'exécuter sur une machine à 2 processeurs, à 4 processeurs, à 8 processeurs, ça va fonctionner. À condition qu'il y ait suffisamment de parallélisme. Hein. Puisque si vous n'avez pas exprimé suffisamment de parallélisme et que vous mettez ça sur une machine à 1000 processeurs, mais que vous n'êtes pas capable, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? On revient à cette notion de speed-up. Il y a deux notions qui sont importantes pour essayer de voir en fait comment les choses fonctionnent en termes de performance. C'est de dire, c'est W1, c'est-à-dire le nombre total d'opérations à exécuter pour faire ce programme. Le 1, en fait, fait référence à quel temps ça me prendrait d'exécuter ce programme si j'avais qu'un seul processeur. C'est la somme de toutes les tâches. Okay. Donc là, il y en a 12 des tâches. Et puis, on va à W l'infini, qui est en fait le chemin critique, mais qui correspond au temps d'exécution de ce programme ou à la quantité de travail à faire si j'avais une infinité de processeurs ou autant que j'en veux. Et à ce moment-là, vous savez que c'est le chemin critique, c'est-à-dire, de toute manière, celle-là, même si vous avez autant de processeurs que vous voulez, elle sera forcément exécutée après celle-là. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre un temps qui est proportionnel, quelque part, le temps le plus long d'attente, c'est celui qui est lié au chemin le plus long dans votre graphe. D'accord. Et donc, à partir de là, on va essayer de... Bon, ça, c'est l'algorithme dont je vous ai parlé. Hein. Je vais sauter, parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin. On va essayer d'ordonnancer, suivant l'algorithme, mon graphe de tâches. Donc ici, je représente, en fait, ici, vous avez le temps. Ici, vous avez les processeurs disponibles, donc j'en ai mis 4. Et puis, on va appliquer notre algorithme et on va essayer de voir comment on peut ordonnancer mes tâches. Donc, je dis, ben, j'ai la tâche A qui commence au début, il n'y a rien en face. Quand A est terminé, il y a B et C qui viennent disponibles. Donc, B peut être pris par P0, puis C par P1, etc., etc. Je vais remplir, en fait, mon diagramme et j'ai mon temps d'exécution. Et là, je vois que j'ai un ordonnancement qui me donne un temps d'exécution sur 4 processeurs en 6 étapes. OK ? Après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un algorithme efficace ou pas ? Donc, une notion de preuve de performance. Alors, vous allez voir qu'en fait, on peut avoir une notion de preuve de performance. En fait, on peut prouver que le temps d'exécution sur P processeur, il est plus petit que la quantité de travail à faire par un processeur, enfin, la quantité de travail globale à faire, ou le temps d'exécution, ça, c'est divisé par pi P. Donc, ça, quand vous faites ça, ça vous permet de vous donner le temps d'exécution sur un processeur. Donc, c'est plus petit que le temps d'exécution sur un processeur, plus quelque chose qui est proportionnel à P-1 sur P, donc indépendant du nombre de processeurs, multiplié par W à l'infini, c'est-à-dire le chemin critique. L'idéal, c'est si on n'a que W1 sur pi P. Ça, c'est le temps optimal. Mais vous avez quelque chose en plus, donc il y a un surcoût lié à ça. Okay ? Donc la question, c'est de savoir déjà comment on prouve ça, et ensuite, comment ça se positionne ce surcoût-là, qu'est-ce que ça représente ? J'ai la preuve là, mais je ne vais peut-être pas trop y passer de temps parce que je vois que le temps avance. Je vais essayer juste de vous donner l'intuition. On va représenter notre programme, en fait, le temps d'exécution, c'est cette ligne-là, le nombre de processeurs, c'est cette ligne-là. Et on va donc dire mon temps d'exécution multiplié par le nombre de processeurs, ben, c'est ça par ça. Donc c'est une surface. Okay ? Donc on a cette surface-là. Et on va voir ce qu'il y a dans cette surface-là. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette surface-là ? Ben, il y a toutes les tâches, elles y sont toutes, forcément. Okay ? Donc il y a W1. Et puis il y a cette partie-là où je n'ai pas pu donner du travail à mes processeurs. Donc ça va être là la partie difficile à évaluer. Donc j'ai quelque chose qui représente en fait la surface où il ne se passe rien. Et donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de borner cette surface-là. Et donc, il y a deux remarques importantes à faire. C'est que quand il y a à un moment donné, il y a un processeur, une zone où il y a quelqu'un qui ne fait rien, il y a forcément quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, je peux déjà la borner en disant qu'à chaque moment où il y a quelqu'un qui ne fait rien, il y en a toujours au moins un d'actif. Donc ça, en termes de hauteur, c'est P-1 au plus. Okay. Donc, je vais pouvoir dire cette chose-là. Et puis après, l'autre point important, c'est de remarquer qu'un processeur devient inactif au moment de la transition dans le long du chemin critique. Alors, pour avoir l'intuition de ça, vous pouvez vous dire que quelque part, mon temps d'exécution, si j'ai suffisamment de processeurs, c'est W infini. Okay ? C'est la taille du chemin critique. Maintenant que j'ai un peu moins de processeurs, j'en ai P des processeurs. Donc quand vous avez P processeurs, c'est comme si, là, au lieu d'être non borné, vous avez une borne. Donc vous avez retassé vos tâches. Qu'est-ce qui va se produire ? C'est qu'à un certain moment, vous allez avoir beaucoup de tâches qui auraient été, dans le cas idéal, exécutées tout en parallèle. Il va falloir compresser ça. Et donc vous exécutez ça en séquence. Vous allez donner à tous vos processeurs. Donc tout processeur va être plein, etc., pour exécuter cette tâche-là. Et puis à la fin de cette phase-là, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas réussi à créer des nouvelles tâches dans l'arbre de dépendance, avancer dans l'arbre de dépendance, là, tout le monde va être occupé. Et seulement à la fin, quand vous allez faire la transition, peut-être qu'à ce moment-là, il vous manque de l'activité. Donc ça va nous donner une deuxième information qui est de dire, quelque part, ces zones d'inactivité, il y en a un nombre qui est proportionnel à la taille du chemin critique. Et donc grâce à ça, on a cette borne-là. On voit que toute la partie inactive, et c'est P-1. Donc, en fait,